Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur un trésor dans des vases de terre, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Dans ce passage, Paul nous compare à des vases de terre. Les vases de terre, c'est nous. Et le trésor qui est dans ces vases de terre, c'est l'évangile que nous avons reçu. C'est la présence de Jésus en nous. C'est ça, notre trésor. Et donc, la comparaison avec les vases de terre nous parle de notre humilité. Nous sommes faibles, fragiles. Qu'est-ce qu'un vase de terre ? C'est de la poussière qui est rassemblée pour former un vase. Comment est-ce qu'on obtient un vase ? D'abord, l'argile, elle est prise de la terre. Elle est issue du sol, elle est lavée, trempée dans l'eau. Ensuite, elle est frappée et travaillée par les mains du potier. Ensuite, on la coupe avec un fil de fer pour enlever les bulles d'air. Ensuite, elle est centrée sur le tour. Et puis, le potier va étirer la terre. Il va l'élargir ou la monter suivant le vase qu'il veut obtenir. Donc nous, nous sommes le vase entre les mains du potier. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu a permis cela ou pourquoi il me donne cette direction? Mais c'est lui qui façonne. Il est en train de façonner ses vases. Et ensuite, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il le met sur une étagère et il laisse l'argile sécher pendant un certain temps. Et puis la dernière étape, c'est le four. Et là, l'argile va développer toutes ses caractéristiques de la solidité parce qu'en passant par le feu, il va y avoir une réaction de l'argile qui va devenir plus solide, plus fort. Et tout cela, en fait, ça nous parle un petit peu des expériences que nous vivons avec le Seigneur. Nous sommes comme des vases de terre, nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Et un vase, vous pouvez avoir le plus beau vase sur terre, imaginez le plus beau vase du monde. Mais même ce plus beau vase du monde, s'il tombe par terre, il va se passer exactement la même chose qu'avec le vase le moins cher du monde. Il va se briser en mille morceaux. Pourquoi ? Parce que ce vase garde cette fragilité que si il lui arrive une épreuve, eh bien, il va être abîmé, détruit. Et j'ai regardé les mots utilisés dans l'Ancien Testament pour parler de l'être humain. Ben, ce sont des mots qui évoquent la fragilité. Si vous regardez le mot « Adam », le premier homme s'appelait Adam. Pourquoi il s'appelait Adam ? Parce qu'il était issu de la poussière. Adam, ça veut dire poussière. Ish, un autre mot hébreu pour désigner l'homme. Ish, c'était l'homme, Isha, la femme. Ish, ça veut dire être faible, fragile, souffrant. Vous voyez que ça fait partie quand même de la nature humaine. Et puis le troisième mot, c'est Enosh, qui veut dire en français mortel, périssable. Et donc, quand la Bible utilise des mots pour parler de l'être humain, eh bien, c'est toujours des mots qui évoquent notre fragilité physique. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus dans notre vie et d'avoir une relation avec Dieu, parce que c'est ce qui va nous donner la vie spirituelle qui va perdurer après notre mort. Car Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Notre destination terrestre, c'est la poussière. Mais notre destination céleste, c'est le paradis. Notre âme, elle est rattachée à Dieu. Un vase, donc, reste fragile et quelquefois, dans la vie, nous connaissons ces fragilités, nous passons par des moments négatifs, sombres, les difficultés s'accumulent, peut-être on a l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Et il y a une petite voix intérieure qui vient à ce moment-là nous dire « mais tu ferais mieux de tout abandonner puisque tu vois bien, depuis que tu es chrétien, ça ne marche pas ». C'est arrivé aux disciples dans la tempête. Ils suivaient quand même Jésus pendant 3 ans sur cette terre. Ils ont fait des belles expériences, ils ont vu des miracles. Ils ont vu qu'à Jésus, tout est possible. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés eux-mêmes dans la difficulté, ils ont dû traverser la mer. Jésus était avec eux pourtant dans la barque, ce qui n'a pas empêché la tempête de survenir. Et lorsqu'ils se sont retrouvés eux-mêmes inquiets pour leur propre vie, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir, la parole qu'ils disent à Jésus, il le réveille, il était en train de dormir, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors, ils le disent au présent. Ça veut dire, on est en train de mourir et toi, tu ne fais rien. Pourtant, ils ne sont pas morts. Et souvent, nous disons au présent des choses qui ne se produiront pas. Parce que Dieu avait un autre plan pour les disciples. Ce n'était pas de périr, mais c'était de vivre et de témoigner la parole de Dieu. Alors que tout semblait perdu, alors qu'il n'y avait plus aucun espoir et que même dans la bouche des disciples qui étaient des croyants qui suivaient Jésus, ils confessaient eux-mêmes qu'ils périssaient, eh bien, Jésus était là et tout n'était pas perdu. Ça, c'est la réalité spirituelle. Même s'il y a la tempête, même si nos propos disent que nous allons périr, eh bien, Jésus a un autre plan pour nous et c'est ce plan-là qui va compter. C'est Jésus qui va dire silence à la mer, au vent, tais-toi, et le calme est revenu. Donc, frères et sœurs, nous avons un autre paramètre, c'est que Jésus est présent dans la barque, et c'est lui qui détermine les temps, les circonstances. Jésus est là, voilà l'élément, j'allais dire le trésor. On a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Est-ce que vous avez Jésus dans votre cœur ? Si vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez un trésor dans votre cœur, ça n'a pas de prix. Mais vous êtes toujours un vase de terre à l'extérieur et ce vase, il est fragile. J'aimerais voir quatre éléments dans ce passage de l'apôtre Paul lui-même qui nous montrent les difficultés que peuvent traverser ce vase de terre. Le premier, c'est la pression. Le deuxième, c'est la détresse. Le troisième, c'est la persécution. Et le quatrième, c'est l'abattement. Paul le dit au verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Le premier, c'est la pression. Nous sommes pressés de toute manière. J'ai regardé dans le terme original, c'est-à-dire le grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est un mot qui signifie être écrasé, être pressé, mais être écrasé, comprimé. Et quand on devient chrétien, si vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous allez connaître une certaine pression. Une pression, par exemple, familiale. Si vous êtes converti et que votre époux n'est pas converti, donc le mari peut dire à sa femme, et j'ai eu ce témoignage, un mari donc, qui n'était pas converti, qui dit à sa femme nouvellement convertie, il lui a dit, bah, écoute, tu choisis, soit tu suis Dieu, ou soit tu restes avec moi, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est une pression. C'est une pression forte dans le couple même. Au travail, c'est une pression parce que vous voulez marcher dans la vérité, dans la parole de Dieu, et le patron vous dit, dites que je ne suis pas là. Et il vous demande de mentir. C'est une pression. Comment on va faire ? C'est une difficulté. Vous voyez, ces pressions, elles existent. Et là, il nous faut le secours de Dieu pour répondre avec sagesse et habileté. Mais ça peut être la pression de votre entourage, de vos amis, qui vous reprochent d'être toujours à l'église le dimanche matin, d'être toujours avec des réunions de chrétiens, de ne pas avoir de temps pour eux, etc. C'est une pression pour vous ramener dans un autre courant. Donc les apôtres Pierre et Jean, je viens à un exemple du Nouveau Testament, ont vécu des miracles extraordinaires en présence de Jésus et aussi dans les actes des apôtres, puisque maintenant Jésus était au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit, mais l'œuvre de Dieu continue. Jésus est au ciel, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour que l'Église continue à faire les choses que Jésus a commencé de faire. Et donc, Pierre et Jean allaient au temple, il y avait un paralytique, et ils ont prié pour ce paralytique, et Jésus a agi, il a guéri ce paralytique. Et comme ils enseignaient beaucoup, beaucoup au sujet de Jésus, et puis que ça rameutait du monde, qui voulait en connaître plus, les pharisiens n'étaient pas contents. Ils ont convoqué les apôtres et leur ont interdit de parler au nom de Jésus. On peut dire que c'est un contre-coup après la bénédiction. Et souvent, après des grandes bénédictions, il y a des contre-coups, des oppositions, des difficultés qui surviennent, eh bien, c'était déjà le cas à l'époque de Jésus. C'est un petit peu comme l'image des oiseaux que j'avais utilisée la semaine dernière, qui viennent enlever la semence avant qu'elle prenne racine. Il y a une bénédiction, mais l'ennemi fait tout en œuvre pour que ça échappe et que ça n'aboutisse pas. Maintenant, quelle est la réaction des apôtres? Ils sont donc arrêtés, ils sont battus de coups, ils sont enfermés, ils sont jugés, on leur ordonne de ne plus parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu se plaindre et dire, ben, Seigneur, voilà, nous on te sert, tu nous as abandonnés, on n'a que des problèmes, maintenant tout va mal. Mais leur attitude est différente. Ils restent confiants dans le Seigneur, dans la persécution, dans cette pression, puisqu'ils ont conscience que c'est Dieu qui dirigera les temps et les circonstances. Ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. Ils restent confiants là-dessus. Donc Dieu est à la main sur cette situation. Et puis après une journée et une nuit passées en prison, ils comparaissent devant le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux des pharisiens, et finalement, ils vont continuer à annoncer Jésus avec assurance, malgré la pression. Et le texte dit, au verset 13, que le tribunal voit dans ces hommes du peuple des hommes sans instruction. Il les considérait comme sans instruction parce qu'ils n'avaient pas fait le cursus qu'on a chez les Juifs pour être pharisiens. Mais ils avaient une autre instruction et c'est là où ils se trompaient. Ils n'étaient pas sans instruction, ils n'avaient pas l'instruction religieuse des pharisiens, mais ils avaient une autre instruction qui est bien meilleure. C'est celle d'être au pied du Seigneur et de recevoir la parole de Dieu. Ça, ils l'avaient. Alors, vous n'avez peut-être pas une grande instruction aux yeux de ce monde, mais si vous avez l'instruction de la parole de Dieu, vous pourrez faire de grandes choses pour le Seigneur. Ça, c'est important. C'est plus important, cette instruction-là. Bien sûr, il nous faut apprendre les choses pour connaître comment vivre dans ce monde, bien sûr. Mais nous devons développer en parallèle une autre instruction, qui est l'instruction dans la parole de Dieu. C'est celle-là qui comptera. Étienne, par exemple, qui a été lapidé à cause de sa foi, dans Actes 6,10, il est dit « Il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » Ah, que le Seigneur nous donne cette sagesse et ces paroles du Saint-Esprit pour pouvoir apporter la vie autour de nous. Ça, c'est une autre instruction, frères et sœurs. Vous ne la trouverez pas sur les bancs de l'école, mais vous la trouverez à genoux, au pied du Seigneur, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Nous avons encore besoin de cette instruction qui nous rend sages, parce que certains sages aux yeux de ce monde sont fous aux yeux de Dieu, et certains qui paraissent fous aux yeux de ce monde, en réalité, ils sont sages aux yeux de Dieu, parce que c'est la sagesse de Dieu. Cette sagesse, elle n'a pas de prix. Cette sagesse, vous ne pourrez pas la connaître dans les universités ou les facultés en étudiant les philosophes. Cette sagesse, vous la trouverez dans la parole. Jacques en parle. Il dit, la sagesse de ce monde, elle est humaine, elle est terrestre, elle est charnelle, et même, il dit, elle est diabolique. Voilà la sagesse du monde. Il dit, il y a une autre sagesse. Cette autre sagesse, c'est celle qui vient d'en haut, qui est spirituelle et pure. C'est celle que nous devons rechercher. Donc la décision du tribunal, lorsqu'il convoque les apôtres, c'est la défense absolue de leur parler, de parler au nom de Jésus. Et c'est une pression parce que s'ils continuent, ils sont menacés de représailles. Donc la pression est forte. Et quand on est sous pression, on a tendance à se recroqueviller, à se faire petit, à ne pas parler, à baisser la tête. La pression est là. Mais les apôtres sous pression étaient sous pression, mais pas totalement écrasés. Acte 4, verset 19, voilà comment ils répondent sous la pression. Ils disent au Sanhédrin, « Jugez, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Nous ne pouvons pas, ça veut dire nous ne pouvons pas obéir à votre ordre, même s'il y a une pression. Ils n'étaient pas complètement écrasés, mais avec l'aide de Dieu, ils ont pu résister à la pression. Ils ont eu de nouvelles menaces. Le diable ne vous laissera jamais tranquille. Même si vous résistez, eh bien, il en mettra une deuxième couche. Mais Dieu a permis que le Sanhédrin laisse partir les apôtres, même s'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, par crainte de la réaction du peuple. eh bien, on se rend compte que c'est Dieu qui a dirigé les choses pour que les apôtres soient libérés. À un moment donné, nous devons abandonner la situation entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui dirigeras, parce que maintenant, nous ne pouvons plus rien faire. Proverbe, chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors, Dieu peut diriger à votre égard, même, allez, votre patron, même un voisin qui est pénible, même un ennemi qui va être contre vous, eh bien, Dieu peut s'arranger pour que la situation tourne en votre faveur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons prier, parce que nous sommes sous pression, mais nous ne sommes pas totalement écrasés parce que le Seigneur veille. Alors, on va continuer le deuxième élément de notre verset. Nous sommes pressés de toute manière, c'est le verset 8 dans 2 Corinthiens 4. Donc, on a vu la pression, oui, mais non réduite à l'extrémité. Le deuxième élément, c'est nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la détresse. Alors, j'ai regardé le texte original, toujours écrit en grec, et littéralement, c'est écrit « Nous sommes dans une impasse, mais pas totalement dans une impasse. » Et nous nous retrouvons parfois dans une impasse. C'est-à-dire, il n'y a plus de chemin devant. Comment on fait? On ne peut plus avancer. Pas d'issue. Et les gens vous disent « Ben voilà, tu suis le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu et tu te retrouves dans une impasse. » Oui. Et on peut vous faire dire que ben, vous serez toujours dans cette impasse, c'est-à-dire vous serez toujours malade, vous ne vous en sortirez jamais, vous ne pourrez pas sortir de là, vous serez sans emploi, vous n'arriverez pas à trouver quelque chose, un logement. Oui, c'est une impasse. Mais avec Dieu, on n'est jamais totalement dans une impasse. Oui, on est dans des impasses souvent, mais elle n'est pas totale. C'est-à-dire que Dieu a une solution derrière. Un père, un jour, vient avec son fils. Il était, lui, dans une impasse, parce que son fils était possédé d'un esprit de suicide. L'esprit le poussait dans l'eau, dans le feu, pour que cet enfant se donne la mort. C'était tellement inexplicable qu'on disait qu'il était lunatique, c'est-à-dire qu'on attribuait à la lune des actions sur les êtres humains qui les faisaient comporter d'une manière étrange. Donc on n'avait aucun médicament, aucun médecin n'était capable de le soigner, et donc c'était une impasse, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de solution, même médicale, thérapeutique, quels que soient les médicaments, l'esprit le poussait toujours à se suicider. Et puis, il le jetait par terre, il bavait comme un animal. Voilà ce que font les mauvais esprits. Ils agissent pour la destruction des êtres humains. Donc, cette famille était dans l'impasse, mais l'homme, malgré l'échec qu'il y a eu, et c'est là où on se rend compte qu'on n'est jamais totalement dans une impasse, parce qu'il a fait un premier pas vers les disciples qui n'ont pas pu délivrer cet enfant possédé. Donc, ils étaient toujours dans l'impasse. Alors, cet homme, ayant contacté les disciples du Seigneur, qui étaient quand même les personnes les plus avancées spirituellement, qui a connu cet échec, il aurait pu dire, ben voilà, c'est mon lot, je n'y arriverai jamais, même les disciples n'y arrivent pas. Donc, ça confirme que je suis bien dans une impasse et qu'il n'y a pas de solution. Mais il n'était pas totalement dans une impasse parce qu'il est allé voir Jésus ensuite. Et c'est là qu'il y a eu l'issue. Matthieu, chapitre 17, verset 18. L'impasse n'était pas totale, car Jésus était là. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri alors même. Pourquoi ? Parce que devant Jésus, l'esprit est obligé de lâcher sa proie, et il va sortir de l'enfant. L'enfant est donc délivré, et Jésus va donner deux raisons principales aux disciples pour lesquelles ils n'ont pas pu chasser ce mauvais esprit. Un, il dit « c'est à cause de votre incrédulité ou votre manque de foi, vous devez davantage exercer la foi et vous attendre à l'action de Dieu ». Et deux, dans certains cas, il dit « cette espèce de là ne sort que par le jeûne et par la prière ». Et bien sûr, il nous faut ajouter le jeûne et la prière à ce combat spirituel. Et ainsi, Jésus a formé les disciples pour pouvoir aboutir à des bénédictions plus importantes. Donc ici, nous avions un homme sans issue, mais pas totalement sans issue. Troisième élément de notre texte, c'est au verset 9. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Là encore, dans l'original, c'est écrit « Nous sommes pourchassés, mais non rejoints », littéralement, « pourchassés, mais non rejoints ». Et là, on peut penser à David, le roi David, qui, à une partie de sa vie, était pourchassé par Saül. Saül, c'était son beau-père. Il n'avait rien fait de mal envers Saül, mais Saül ne l'aimait pas. Et vous ne pourrez jamais comprendre toutes les raisons pour lesquelles les gens ne vous aiment pas ou certains ne vous aiment pas. En tout cas, certains vous voudront du mal. Mais c'est simplement une réalité que certains se retournent contre vous et vous veulent du mal. Psaume 38, verset 20, le psalmiste l'exprime ainsi. « Mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. » Ils me haïssent sans cause. On n'en connaît pas la raison, mais David a connu cela, de la haine, alors que lui donnait de l'amour. Saül devenait de plus en plus jaloux. David avait de plus en plus de succès. C'est vrai qu'au début, Saül appréciait beaucoup David parce que David venait avec sa harpe. Quand il jouait de l'harpe, Saül était apaisé. Le mauvais esprit qui l'agitait s'éloignait. Mais petit à petit, il a développé de la jalousie. Saül laissait les mauvaises pensées rentrer dans son cœur. Vous voyez, Saül était croyant. Il aurait pu rejeter ses mauvaises pensées. Ça ne venait pas de Dieu. Il aurait pu dire stop. Je change de pensée. J'arrête de penser mal. Non. Il a entretenu ses mauvaises pensées. Il regardait David d'un mauvais œil. C'est écrit dans 1 Samuel 18, verset 9. Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Bon, si on ne travaille pas sur nos pensées, sur notre regard, eh bien, petit à petit, c'est comme Saül. Il va développer de la haine, il va développer de la jalousie envers un enfant de Dieu. David est un enfant de Dieu. C'est même un serviteur de Dieu. Certains vous voudront du mal un petit peu comme Saül, parce qu'ils vous envient, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils ont mille et une raisons, mais qui sont à eux. Même si Saül avait ses qualités, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui avait choisi Saül. Saül n'était pas un incroyant. Il aimait Dieu, il servait Dieu. Il avait son œuvre à accomplir. Je vais vous montrer les promesses sur la vie de Saül. Regardez 1 Samuel 13 pour vous montrer que sur la vie de cet homme, il y avait des bénédictions en réserve. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Voilà le plan d'origine. « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Ça, c'était le plan de Dieu pour Saül. « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Mais à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, Saül n'a pas vécu la pleine bénédiction que Dieu avait prévue pour lui. « Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et cet autre homme, c'est David. Et donc, la promesse était bien sur Saül. Saül est tombé dans l'orgueil, dans la jalousie. Il n'a pas demandé pardon. Il ne s'est pas repenti. Eh bien, il a été écarté par Dieu et c'est David qui a pris la place de roi. Donc c'est une erreur. Même si on a reçu des promesses de Dieu, voyez comme Saül, il avait un plan pour lui. Mais c'est une erreur, même si on est dans le plan de Dieu, d'envier une autre personne, puisque Dieu a un autre plan pour nous. Et nous, il nous faut rester dans le plan que Dieu a pour nous. Ça, c'était le rôle de Saül. Il n'aurait jamais dû envier David. Il aurait dû chercher à faire la volonté de Dieu pour sa vie. Saül essaya même de tuer David à plusieurs reprises, mais à chaque fois, Dieu faisait dévier la lance, parce que David aurait pu mourir sous la lance de Saül, il aurait pu être rattrapé par Saül plus d'une fois dans le désert. À chaque fois, il le faisait échapper. Et certains essaieront de vous détruire d'une manière ou d'une autre, soit avec la langue, un peu comme Jérémie, ils essayaient de le détruire avec la langue, soit avec leurs paroles, avec leurs actions. Eh bien, Saül n'a jamais pu, malgré sa forte armée, malgré sa puissance, malgré qu'il était roi, il n'a jamais pu attraper David et lui nuire. Au contraire, c'est même Dieu qui, à deux reprises, a livré Saül entre les mains de David. Dieu a livré Saül entre les mains de David. Il aurait pu le tuer deux fois. Il ne l'a pas fait. Alors, vous ne pourrez pas empêcher les personnes de dire du mal de vous, mais vous pouvez par contre poursuivre votre chemin en vous confiant dans le Seigneur, parce que votre destinée est entre les mains de Dieu. Ne tombez pas dans le piège de Saül en vouloir envier les autres qui n'ont pas reçu la même chose que vous, mais avancez dans votre chemin ce que Dieu a prévu pour vous. Cherchez le plan de Dieu pour vous. Et avec Dieu, si vous êtes en communion avec Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui vous remplit. Et le Saint-Esprit, c'est comme un souffle puissant. Et vous savez, un souffle, ça donne de l'énergie. Dans la voiture, par exemple, si vous avez un turbo, c'est du souffle qui va donner de l'énergie au moteur. C'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous avez une énergie spirituelle qui va vous permettre d'avancer. C'est comme ça qu'Élie, à un moment donné, il est dit qu'il a couru devant le char d'Akab. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est un miracle. Je termine avec l'abattement. C'est au verset 9. Donc, persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Littéralement, dans le grec, c'est « étant terrassé, mais non achevé ». Et parfois, on est terrassé, on est par terre, mais on n'est pas achevé, parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est là. C'est arrivé à Paul, lorsqu'il est parti dans son premier voyage missionnaire, dans la ville de Lystre, il y a eu des grandes bénédictions. Un boiteux de naissance écoute l'Évangile et est guéri surnaturellement par la puissance de Dieu. Les gens de la ville sont tellement émerveillés qu'ils considèrent que Paul et Barnabas sont des dieux. Ils disent « Les dieux sont venus vers nous sous forme humaine ». Ils appelaient Barnabas Jupiter et ils appelaient Paul Mercure, donc des dieux grecs. Mais les Juifs arrivèrent d'Antioche et gagnèrent la foule et ils ont renversé la foule qui faisait des apôtres des dieux et ils voulaient les lapider. Et finalement, ils ont lapidé Paul. Et la lapidation était tellement violente qu'ils ont cru que Paul était mort. Ils l'ont laissé pour mort. Donc il était terrassé. Les gens pensaient que c'était fini. Actes chapitre 14, verset 20. Il était terrassé, mais il n'était pas achevé. Actes 14, 20. Mais les disciples, l'ayant entouré, c'est-à-dire entouré Paul, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Les gens disaient qu'il était achevé, les gens disaient qu'il était terrassé, mais il n'était pas complètement achevé. Et ça, c'est les disciples qui l'ont relevé. Les disciples l'ont entouré. Et ça, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de l'affection fraternelle. Que Dieu soit béni pour les frères et les sœurs qu'il a donnés à l'Église et qui permettent de soutenir les personnes éprouvées. L'affection fraternel, c'est une force. Il va se sentir entouré, il va se sentir relevé, il va reprendre la route et il va prêcher la parole de Dieu plus loin. Ça, c'est grâce au soutien des frères et des sœurs, c'est-à-dire les disciples qui l'ont entouré, qui ont prié pour lui, qui ont pansé ses blessures, qui l'ont secouru. Et ça lui a donné de l'énergie, ça lui a donné de la force pour continuer la route. Aujourd'hui, peut-être, vous avez été lapidé par quelqu'un, c'est-à-dire on vous a bafoué, on vous a malmené, on vous a maltraité, on n'a pas eu d'égard pour vous, vous êtes terrassé, le nez dans la poussière, vous pensez que vous ne pourrez plus vous relever, que vous n'en avez pas la force ni l'envie, plus le courage, vous avez perdu la passion, mais avec le Seigneur, vous n'êtes pas complètement achevé. Les disciples sont là, les frères et sœurs sont là, le Seigneur est là, et ils vont vous aider, ils vont vous encourager, ils vont prier avec vous pour que vous puissiez vous relevez. Ne pensez pas que c'est fini, même si vous êtes à terre, comme l'apôtre Paul, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Que le Seigneur soit béni. Peut-être on ne vous a pas donné assez d'amour, vous avez senti du rejet, de l'abandon, vous avez été mis dans un coin, mais Dieu le voit et il va vous donner des frères et des sœurs qui vont vous donner de l'affection, qui vont vous ranimer le cœur pour que vous puissiez avancer. Peut-être vous êtes malade, votre vie n'est pas entre les mains des médecins. Vous êtes peut-être à terre, le nez dans la poussière, mais vous n'êtes pas achevé parce que votre vie est entre les mains de Dieu. C'est lui, le divin médecin. Même si vous avez été éprouvé durement, même si vous êtes passé près de la mort, Dieu est toujours là. Notre temps n'est pas encore terminé. Tant qu'on n'est pas de l'autre côté, on est pour le Seigneur, on peut continuer à avancer. Voyez, le roi Ézéchias a vécu cette expérience alors qu'il était très malade et qu'il allait bientôt mourir. Il a fait appeler Ésaïe le prophète, qui était dans la cour, et le prophète lui rend visite. 1 Roi, chapitre 20, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, voilà la parole de Dieu dans la bouche du prophète Ésaïe. Et il dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est une parole de Dieu quand même. Il aurait pu dire, ben voilà, Dieu a déterminé que je vais mourir, donc je vais mourir. Eh bien, Ézéchias s'humilie, il prie Dieu, il le supplie, il se repent, il demande grâce, il fait appel à Dieu, à ses compassions, et Dieu entend sa prière. Ça veut dire que Dieu change ses dispositions premières qu'il avait arrêtées pour lui, et il va rappeler Ésaïe. Alors qu'Ésaïe était en train de partir, il était encore dans la cour du temple, il dit au prophète Ésaïe, retourne, donner un autre message au roi. Et cet autre message au roi, c'est Dieu va rajouter 15 années à ta vie. Tout ça parce que cet homme a pris au sérieux la parole de Dieu, il a prié, il s'est repenti, il a demandé grâce et il a obtenu la faveur de Dieu. Voilà un exemple pour vous montrer qu'on peut être terrassé, mais pas complètement achevé, si nous nous tournons vers Dieu, si nous cherchons sa réponse. Donc, il ne répondra pas. Eh bien non, tout n'est pas encore perdu, parce qu'il y a encore un espoir. Cet espoir, le chemin de l'espoir, c'est, rappelez-vous, qu'il espéra contre toute espérance. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était impossible, il n'y avait aucune solution. Mais il espéra, il fit le choix de croire en Dieu plutôt qu'en la médecine, plutôt qu'en les possibilités de l'époque. Il espéra contre toute espérance. Que oui, nous sommes comme ces vases de terre portant en nous-mêmes ce trésor dans des vases d'argile, ce trésor précieux de ta parole, ce trésor précieux parce que tu es là dans nos cœurs, Seigneur. Mais nous voulons nous rappeler sans cesse qu'il y a toujours une issue que tu prévois, qu'il y a toujours une solution. Même si nos yeux ne la voient pas en ce jour, Seigneur, nous pouvons dire qu'elle existe. Qu'en toi, tout est possible en tout instant. Qu'en toi, il y a toujours la vie et l'abondance. En toi, il y a la victoire sur la maladie, sur le péché. En toi, il y a la victoire sur les portes fermées, sur les obstacles infranchissables. En toi, il y a des bénédictions sans limite, Seigneur, et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons limité dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Et nous te prions, Seigneur, de venir confirmer encore ta parole, peut-être pour mon frère ou ma sœur qui est dans cette impasse, ou qui est dans cette longue maladie, ou qui est dans une situation de désespoir. Seigneur, viens encore manifester ta grâce, étends ton bras puissant pour encourager, pour montrer, Seigneur, que tu es toujours ce Dieu en qui nous pouvons nous confier chaque jour. Tu es toujours ce Dieu qui répond, même si nos yeux disent « c'est pas possible », Seigneur, toi tu dis « c'est encore possible » et nous voulons regarder vers toi dans la foi encore ce matin et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.